Ce matin avec nous dans le 8-30, colonel Alain Juge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivé il y a quelques semaines à la tête du SDIS des Hautes-Alpes, du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes, avec un parcours, vous allez revenir dessus, mais un parcours depuis 1989, depuis que vous êtes sapeur-pompier professionnel, qui répond à certaines problématiques que l'on peut rencontrer dans les Hautes-Alpes. Vous êtes passé par la Corse du Sud, par la Drôme, par l'Ardèche, des territoires qui sont un peu en concordance avec les Hautes-Alpes.
Oui, tout à fait, des territoires à forte identité et à caractère majoritairement rural, qui sont soumis à des risques feux de forêt, des risques liés aux épisodes cévenols pour certains, et des enjeux de disponibilité de façon à répondre présent à l'activité opérationnelle.
On va revenir justement sur cet enjeu de disponibilité qui est extrêmement important dans les Hautes-Alpes. Mais vous l'avez précisé, vous êtes intervenu sur plusieurs catastrophes, notamment catastrophes naturelles, notamment des séismes. Quand vous êtes arrivé dans les Hautes-Alpes, on vous a dit justement, ça aussi, il faudra s'y préparer ici.
Alors la mission des sapeurs-pompiers, c'est de faire face à la totalité des situations auxquelles la population ne peut pas répondre. Que ce soit d'un accident de circulation, un malaise, ça peut aller jusqu'à des catastrophes naturelles ou technologiques importantes. Donc on a des formations en termes de gestion de crise qui nous permettent de faire face. Et effectivement, lors de ma carrière, j'ai eu à gérer ou à participer à des situations importantes, notamment des épisodes cévenols, que ce soit en Ardèche ou dans la Drôme, des feux de forêt en Corse ou en Ardèche, et puis dernièrement le séisme du Teil qui a duré en termes d'activité opérationnelle plus de 21 jours en Ardèche.
Le facteur neige, c'est un facteur que vous connaissez, que vous devez appréhender différemment aussi?
Alors au niveau du facteur neige, on n'était pas dans la même échelle sur les territoires sur lesquels j'ai pu assurer mon activité opérationnelle. Je pense notamment sur le plateau du Vercors, dans la Drôme, où il y avait des enjeux. On n'est pas sur les mêmes massifs montagneux, mais les difficultés, c'est surtout des difficultés d'accès liées à un vent du nord extrêmement important qui peut générer des congères. Et puis le phénomène de la burle en Ardèche qui pose de vraies difficultés opérationnelles, puisque c'est comme une tempête de sable et puis on perd la totalité de ses repères, donc c'est difficile d'accès. Par contre, effectivement, en termes montagneux, on n'est pas du tout sur le même type d'échelle de risque.
La sécheresse actuelle, on en parle, une sécheresse un petit peu plus précoce. On a connu un été particulier l'année dernière, extrêmement dangereux. Des feux de printemps aussi qui sont plus précoces dans les Alpes d'Haute-Provence, mais aussi dans les Hautes-Alpes. Du coup, comment on appréhende cette difficulté supplémentaire aussi?
Le changement climatique induit et induira dans les faits, de toute façon, et on le constate, des feux de forêt qui sont de plus en plus au nord. Des feux de forêt qui seront de toute façon de plus en plus importants. Donc il convient de s'y préparer. Pour ça, il y a trois éléments. C'est la prévention, c'est la totalité des acteurs, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les propriétaires fonciers, que ce soit l'ensemble des acteurs. On doit anticiper ces phénomènes-là. Deuxièmement, s'ils doivent venir à se produire, et ils se produiront, il faut mettre en place des plans et des modalités d'intervention. Et ensuite, au jour le jour, en fonction du niveau de risque que l'on peut constater l'été, on positionne sur le terrain les moyens de façon à faire face, qu'ils soient départementaux ou qu'ils soient nationaux, voire internationaux, puisque les sapeurs-pompiers de France sont en ce moment en renfort au Chili, puisqu'il y a une centaine de sapeurs-pompiers qui ont été envoyés par le ministère de l'Intérieur en renfort.
Et aussi en Turquie, après ce séisme, vous avez martelé un message, c'est une maison débroussaillée, c'est une maison qui est protégée en cas d'incendie, et ça on a souvent tendance à l'oublier, ce qui donne lieu parfois soit à des incendies où il faut protéger d'abord la maison, soit à des écobuages mal maîtrisés. Là c'est une difficulté supplémentaire, il faut s'adresser auprès de la population, c'est à vous directement ou aux communes de le faire?
Je pense que tout le monde doit être concerné par ce phénomène, puisqu'avec le réchauffement climatique on va avoir des feux de plus en plus importants. Et si on veut se concentrer sur la lutte et engager les moyens pour limiter la surface brûlée par le feu, il ne faut pas qu'on soit capté pour aller en protection sur les habitations qui seraient dans des massifs non débroussaillés. Effectivement, comme vous le dites à juste titre, une maison débroussaillée, c'est une maison sauvée. Effectivement, le feu va arriver, il va s'arrêter en termes de puissance de feu autour de la maison et la maison sera sauvée. Et nous, on pourra faire de la lutte pour réduire la surface brûlée en totalité. Mmh. Donc c'est extrêmement important et j'invite vraiment tout le monde à s'y engager. Et la DDT qui anime tout cela sur le territoire avec l'ensemble des acteurs, des maires, sont à la disposition pour répondre à la totalité des questions sur les obligations légales de débroussaillement.
Alors vous parliez de ces interventions justement à l'étranger des pompiers. Est-ce que le savoir-faire pompier français est reconnu à l'international justement en cas d'intervention majeure et de crise ?
Le modèle de sécurité civile française qui correspond au principe suivant, dans un premier temps, les secours de proximité, puis après les renforts qui viennent d'un petit peu plus loin, et après les renforts qui viennent d'autres départements, voire d'autres territoires internationaux, fonctionnent, fait école, puisque on constate qu'on a eu l'été dernier des Canadairs qui venaient d'autres pays européens, ça peut être l'Espagne, l'Italie, la Suède, au même titre que la France peut mettre à disposition d'autres pays ces Canadairs et ces moyens, qu'ils soient terrestres, c'est-à-dire des personnels, qu'ils soient des véhicules qui roulent ou que ce soit des moyens aériens. Donc c'est un modèle qui fonctionne bien, qui fait école au niveau international et au niveau européen.
Alors, l'un des enjeux, et le président du conseil d'administration, Marcel Cana, vous a demandé de trouver des solutions, c'est la disponibilité. 1400 hommes et femmes qui sont pompiers aujourd'hui dans les Hautes-Alpes, 98% des interventions qui sont effectuées par des pompiers volontaires. La disponibilité, la nuit, ne pose pas de problème. La journée, c'est un peu plus compliqué parce que ce sont des femmes et des hommes qui ont, très souvent en parallèle, un emploi. Alors, comment on trouve une solution sur cette équation un peu problématique ?
Alors, je reviens sur le modèle de sécurité civile français. C'est dès lors qu'il y a un volume d'intervention important, effectivement, il y a des gardes postés et il y a des pompiers professionnels et pompiers volontaires qui sont de garde à la caserne pour partir en intervention. Et dès lors que le volume opérationnel est faible, on ne peut pas mobiliser des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels en caserne parce que ça n'aura aucun sens et eux n'y trouveraient pas forcément une motivation en étant présents. Donc l'idée, c'est de biper le citoyen dès lors qu'il se passe quelque chose sur le territoire. Et à ce moment-là, je quitte ma vie personnelle, ma vie professionnelle, je regagne la caserne, je me change et je pars en intervention. Et ça passe par la disponibilité. Et effectivement, sur les 35 casernes du département, qui sont armés par 1400 femmes et hommes qui s'engagent pour la citoyenneté. Une majorité est constituée de sapeurs-pompiers volontaires et il faut qu'on travaille avec les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, pour voir dans quelles conditions on peut arriver à avoir la disponibilité pour nous permettre de répondre présent. C'est un exercice collectif auquel on doit tous participer pour nous permettre de vivre en toute quiétude et d'être sûr que si on fait un malaise, si on a un accident de circulation ou si y a un incendie, on aura une réponse adaptée afin de faire face. Donc voilà, c'est quelque chose à quoi on s'emploie, à quoi on va s'employer de façon à être sûr d'avoir une réponse opérationnelle.
Et pour convaincre, justement, le conseil départemental disait, mais auprès des employeurs, ce qu'on leur dit, c'est que c'est un dispositif qui est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on envoie en effet l'employé en tout cas, sur le terrain, mais en même temps, nous, on dispensera de certaines formations aussi auprès des entreprises.
Et effectivement, un sapeur-pompier volontaire, c'est des compétences techniques. Un sapeur-pompier volontaire, c'est un engagement citoyen qui partage des valeurs. Et donc, avoir au sein de son entreprise ou d'une collectivité territoriale des femmes et des hommes qui ont ces compétences, qui peuvent intervenir en cas de sinistre sur le lieu de l'emploi, que ce soit une collectivité ou du privé, quelqu'un qui s'engage pour la citoyenneté, c'est avoir quand même ces valeurs-là qui peuvent être effectivement mises en avant et qui peuvent permettre à l'employeur d'avoir ces compétences et cet engagement citoyen. Effectivement, c'est une vraie force et régulièrement, on croise des employeurs qui reconnaissent que ces personnalités-là permettent de faire fonctionner correctement l'ensemble des structures et il y a un vrai investissement personnel.
Merci beaucoup, colonel Alain Juge.
Merci à vous. Et puis, si certains souhaitent prendre un engagement de sapeur-pompier volontaire, qu'ils n'hésitent pas à prendre la tâche du centre de secours de proximité. C'est avec plaisir qu'on les recevra et qu'on les aiguillera pour leur présenter la caserne, leur faire essayer un casque de sapeur-pompier, parce que les enfants, les petits et les grands ont les yeux qui brillent face à ces casques-là. Et puis, peut-être que parmi eux, certains d'entre nous nous rejoindront, donc on les accueillera avec plaisir. À très bientôt.
Voilà, les portes sont grandes ouvertes. Merci.